Je vous propose maintenant d'écouter François Rossel, qui est écrivain, qui a écrit un livre qui s'appelle La fleur des terres. C'est également un globetrotter, c'est un ethnologue. Et il va nous expliquer tout d'abord comment est née cette passion du voyage, donc de partir un peu comme ça à l'aventure, à la découverte.
Ben, cette passion du voyage, elle est arrivée dans mon enfance déjà avec mes parents qui sont professeurs les deux et qui ont 2 mois de vacances durant l'été. Et on avait un bus camping et avec ce bus camping, on a sillonné tous les pays européens pendant 2 mois, depuis l'âge de 1 an jusqu'à 12 ans. J'ai pas passé un seul été chez moi, j'étais toujours en vadrouille entre la Hongrie, la Yougoslavie, l'Espagne, la France, l'Italie, l'Allemagne, le Danemark. Alors là, très tôt, j'ai appris à découvrir d'autres pays, à me retrouver dans d'autres univers, à jouer avec des enfants qui parlaient pas la même langue que moi, et puis à découvrir des sites historiques. Comme mon père est intéressé par l'histoire, on allait souvent visiter les châteaux, les monastères, les églises, ils nous racontaient un peu les histoires de ce qui se passait. Alors c'est venu de là, très tôt.
Alors, une passion qui vous a pas quitté, puisque aujourd'hui vous continuez à voyager et puis vous écrivez même donc des ouvrages sur ces voyages. Alors, ce qui est quand même assez original, c'est que ce dernier ouvrage, donc à fleur de terre, parle de votre histoire, bien sûr, mais d'un voyage qui s'est fait à pied, accompagné d'un âne. Alors, bon, vous le disiez, quand vous étiez jeune, c'était plutôt en camping-car. Pourquoi le choix de partir à pied comme ça?
Ben, disons, dans le monde contemporain, c'est pas très compliqué à comprendre, parce qu'on constate que le pétrole, ben, ça provoque des dommages assez énormes. Moi, j'étais arrivé à un stade où j'avais fini l'université, on avait fait des années à refaire le monde, à discuter, puis je voyais pas très bien comment rentrer dans la société sans participer à tout ça, et puis j'ai décidé de partir pendant un moment, sortir une bonne fois pour toutes, en tout cas, pour toutes, non, parce qu'on y revient toujours, on n'a pas le choix, mais en tout cas, pendant 2 ans, laisser tomber l'accélération du pétrole et des machines pour essayer de retrouver un rythme humain et un rythme plus lié à la Terre, essayer de comprendre un peu son rythme, parce que pour l'instant on l'a oublié et puis ben, elle en souffre, et tous les humains qui vivent dessus aussi.
Alors il y a ce retour à la Terre et puis il y a également, je dirais, ce retour sur des traces historiques, parce que ce livre mêle effectivement aussi tout ce côté historique où se mêlent plein de choses, des faits vrais, avérés, mais également des légendes et puis un côté roman également, chose que vous avez ressenti et apporté dans ce livre. Alors vous le disiez, votre père aimait l'histoire, est-ce que c'est lui qui vous a transmis, je dirais, le virus?
Ah, je pense qu'il y est pour quelque chose, ça c'est sûr, c'est indéniable. Mais ensuite, je l'ai cultivé de mon côté aussi, avec des amis. Il y a une passion qui m'a tenu très tôt, ben, c'est les bandes dessinées. J'ai beaucoup lu, il y a beaucoup de bandes dessinées qui se passent dans des périodes historiques. C'est surtout celle-là que moi j'ai collectionnée en allant fouiller chez les bouquinistes les fois où j'étais à Bruxelles, aller voir ma famille à Noël ou comme ça. Et ensuite, il y a le jeu de rôle. Le jeu de rôle, c'est une autre manière de découvrir le passé aussi, où on se retrouve en jeu de société à construire une histoire avec un meneur de jeu. Et moi, j'ai créé des scénarios beaucoup. Et ça m'a aussi donné toute une structure mentale qui me facilite pas mal les choses à l'heure ensuite d'écrire un scénario de livre.
Alors justement, comment vous êtes arrivé dans la conception de jeux de rôle?
Ben, assez naturellement, en fait. Disons, il y a eu un moment où j'ai déménagé et j'ai changé de lac. Je vivais au bord du lac Léman parce que je vis en Suisse, même en étant belge. J'ai un passeport belge, mais j'ai jamais vécu en Belgique. Et j'habitais au bord du lac Léman et ensuite j'ai déménagé au bord du lac de Neuchâtel. Et pour moi, ça a fait une rupture qui était très dure parce que j'avais des amis proches que j'ai laissés et je me suis réfugié dans les livres. Et puis, quand j'ai recommencé à socialiser, c'est au travers des jeux de rôle finalement que je me suis vraiment retrouvé avec des amis où on partageait une passion en commun. Et puis, là, on a joué pendant toute notre adolescence.
Alors, vous le disiez, la conception de jeu de rôle qui vous a amené à construire des livres. Comment s'est fait ce passage?
Ben, le passage, il se fait, c'est la même chose. Parce que quand on écrit un scénario de jeu de rôle, ben, on pense à des personnages, on pense à des lieux, on pense à des intrigues, et on fait exactement la même chose qu'on écrit un roman. Alors, moi, quand j'ai fait ce voyage à pied, j'ai réfléchi beaucoup à un roman historique qui se passe en Espagne, au Danemark et en Irlande au 9e siècle. Mais ensuite, je me suis rendu compte que c'est un travail qui allait me demander des années avant de pouvoir arriver à un aboutissement présentable au public. Et on m'a conseillé de faire d'abord un récit de voyage, me disant que ce serait plus facile et que ça intéressera beaucoup de monde, parce que je venais de vivre une expérience de 2 ans de marche et de vivre en extérieur qui n'est plus très fréquente à notre époque en Occident, même si ça existe encore très fréquemment sur tous les autres continents. Et alors du coup, j'ai entrepris la rédaction de ce livre de La Fleur de Terre que j'ai achevé il y a peu, et je peux maintenant me relancer dans la rédaction du roman. qui va encore prendre quelques années. Je pars à cet effet en Norvège maintenant avec un ami où on va faire une reconstitution d'un bateau de commerce scandinave, un petit de 6,50 m où on est déguisé en viking les deux et on descend les côtes norvégiennes pour rejoindre l'Écosse et l'Irlande. Et ainsi, je pourrais me mettre mieux dans l'ambiance des personnages.
On va parler quand même de ce récit, donc à fleur de terre. Alors déjà le titre, à fleur de terre, on sent ben, la terre, vous en parliez tout à l'heure, ce retour à la terre. À fleur de terre, ça fait penser à fleur de peau également, donc quelque chose dans la sensibilité, je dirais. Alors je n'ai pas eu l'occasion de le lire, ce livre, et là, je dirais, parce que c'est plus facile après pour poser des questions. Mais concrètement, donc c'est, on le rappelle, c'est donc ce voyage que vous avez effectué, ce voyage qui vous a emmené sur la péninsule ibérique.
Ben ce livre à fleur de terre, je l'ai baptisé comme ça parce qu'on se retrouve à marcher sur la terre en permanence, à lui dormir dessus et à en découvrir tous les fruits et toutes les fleurs. Et à fleur de peau parce que justement quand on fait ça, on se rend compte à quel point les exactions de l'être humain sont terribles. Les constructeurs, les machines qui mangent les montagnes pour les transformer en béton. Et donc tout ça, c'est des choses qui tapent un peu sur les nerfs et qui font qu'après on les a à fleur de peau. Et ensuite, le livre, il retrace le chemin depuis la Suisse jusqu'à l'Espagne, en tournant tout autour de la péninsule ibérique pour ensuite rentrer en Suisse. Mais on reste pas tout le temps en train de suivre le pèlerin que je suis qui marche sur les chemins. Très souvent, on quitte ce personnage pour aller en découvrir d'autres qui ont vécu 1000 ans ou 1500 ans avant nous. Et on emboîte leur pas des personnages qui partent de Syrie, qui partent de Bagdad pour certains aussi et qui arrivent jusqu'en Espagne. Parce que à l'époque, au 9e siècle, Bagdad était la capitale de l'Empire musulman. Et c'était une ville vraiment de savoir et de magnificence où il y avait des musiciens exceptionnels, dont un qui s'appelle Ziryab, qui est né à 5 ans et qui connaissait déjà tout le répertoire de la musique traditionnelle populaire et qui s'est fait engager dans la cour du calife pour recevoir une formation de musicien classique. Et quand il était présenté au calife, quand il avait 15 ans, sa musique a tellement ébloui et tellement charmé le calife que le maître de la musique, celui qui l'a formé, en a pris... a pris peur et a décidé de le chasser. Et puis Ziryab a fait un long exil de 20-30 ans pour arriver finalement en Espagne, où il a amené énormément de choses qui nous sont utiles à nous maintenant, que ce soit la fourchette, le fait de boire du vin dans des verres à pied et non plus dans des coupes en or ou en argent. La musique, les modes vestimentaires, il a amené beaucoup de choses en Espagne qui ensuite ont traversé les frontières et sont arrivées dans la chrétienté.
Thank you.
Alors, ce qui est important, puisque c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que dans cet ouvrage, il y a autant d'effets historiques avérés, hein, qu'on peut vérifier dans les livres d'histoire notamment, mais il y a également un mélange aussi avec la légende. Alors, on dit toujours que la légende a quand même un minimum de base vraie, mais comment on fait pour mêler tout ça? Bon, il y a sûrement des recherches aussi importantes qui sont effectuées tout au long de votre séjour, de votre voyage, et qui ont permis d'alimenter, je dirais, votre imaginaire aussi.
C'est vrai que la légende et l'histoire, c'est deux choses qui s'entrecroisent et qui se chevauchent tout le temps. Mais la légende, là, j'en parle surtout au niveau de Saint-Jacques de Compostelle, qui est finalement la légende, je l'ai tirée de la légende dorée, ce que je raconte là, de Voragine, qui nous raconte des histoires, des hagiographies, des vies des saints. Et là, on se rend compte que Saint-Jacques, il est arrivé, il est décapité. En Palestine, et puis on retrouve ensuite son corps au 9e siècle en Espagne. Alors après, il y a tout comment est-ce que ça s'est passé tout ça. Et ça, on n'a pas de texte antérieur au 7e siècle qui nous le raconte. Donc ensuite, il y a toute une histoire qui se monte, qui est une légende, mais qui finalement prend corps et devient presque vérité, parce qu'à partir du moment où on y croit et tout le monde le transmet, finalement, au fil des siècles, ça devient une vérité installée. Saint-Jacques est venu en Espagne et il s'est installé là et il s'est transformé en fait en Espagne, parce que quand il est en Terre Sainte, Saint-Jacques c'est un disciple de Jésus qui soigne, qui guérit, qui écoute les gens, qui donne des paroles consolatrices. Mais quand il arrive en Espagne, on a transformé complètement le personnage de disciple de Jésus, on en a fait un guerrier qui est sur son cheval blanc avec son épée étincelante et qui fait couler le sang des musulmans. Et ça, c'est vraiment une inversion symbolique qui est très forte, mais qui, à mon avis, est grave, parce qu'on a enlevé le côté guérisseur et fondamentalement bon de Saint-Jacques pour en faire un guerrier qui s'oppose aux musulmans. Et ensuite, Saint-Jacques va devenir le saint patron de l'Espagne et va être aussi le cri de guerre de toutes les armées chrétiennes quand elles déferlent vers le sud pour conquérir le sud de l'Espagne.
Moi, je conseille bien sûr d'acheter le livre, hein, pour le lire. On va tout de suite préciser qu'on peut donc le trouver ce livre dans les librairies Alinéa à Luxembourg, également au Point Virgule à Arlon et chez Boune à Hattu, et aussi en France à la librairie Virgule. Alors, avant de se quitter, on va peut-être parler un petit peu d'avenir. Vous le disiez, il y a donc le roman qui est encore en gestation. Il y a également déjà un autre voyage de prévu, ce qui laisse entendre que vous prenez, je dirais, très peu de temps, en fin de compte, pour vous reposer et rencontrer, comme c'est le cas là, à Athus, votre public, vos lecteurs.
Il faut dire que pour moi, c'est très neuf d'être un auteur, parce que c'est mon dernier livre, comme vous dites fort gentiment, c'est aussi mon premier. Ce qui fait que j'ai pas encore une habitude d'avoir un lectorat et d'avoir un contact avec eux, mais je me réjouis de commencer.
C'est vrai que, comme vous écriviez, ou écrivez toujours d'ailleurs, je ne sais pas, des jeux de rôle, c'est vrai qu'on a quand même, je dirais que vous avez quand même une habitude de l'écriture, vous en avez parlé, et en écrivant des jeux de rôle, vous êtes quand même amené à rencontrer, c'est vrai que c'est complètement différent, mais à rencontrer les gens qui sont susceptibles justement d'y jouer à ces jeux.
Ah, c'est sûr qu'une fois qu'on écrit un jeu de rôle, ensuite on le fait jouer, donc on a le public qui est là directement. La différence avec un livre où on donne un produit tout fait dans la main du lecteur qui le lit et qui ensuite en pense ce qu'il veut, bien entendu. Mais le scénario du jeu de rôle, c'est des données générales, mais ensuite l'histoire, elle s'écrit en commun. Il n'y a pas un diktat du scénariste qui va dire c'est comme ça que ça doit se passer. Non, ça va évoluer en fonction de la vie de chacun des joueurs. Et puis le roman historique qui est en route maintenant, il va encore prendre quelques années, je pense, avant d'en arriver au bout, parce qu'il mélange autant la culture viking que la culture musulmane que la culture chrétienne, qui elle-même, aucune de ces cultures n'est unique, elles sont chaque fois scindées en différents mouvements de pensée. Alors pour mettre tout ça ensemble, ça demande un travail de documentation assez colossal. J'en ai déjà effectué une partie en Espagne à propos des textes des évêques qui parlent des vikings, les textes des arabes qui parlent des vikings, et maintenant je monte dans le nord pour aller chercher les sagas scandinaves et rencontrer la terre norvégienne et les endroits où ces personnages ont vécu.
Alors, avant de se quitter, on va quand même venir sur une autre corde à votre arc, je dirais. C'est la chanson, parce que vous chantez notamment donc des chansons médiévales, et pas forcément en français d'ailleurs. Alors, comment est venu justement le choix de chanter ?
Ben, le choix de chanter, c'est pas vraiment un choix, c'est quelque chose qui m'est arrivé dessus sans que je l'ai vraiment décidé. Ben, je me suis retrouvé à animer les rues d'un festival du conte international à Moudon. Et puis, moi, je devais cracher du feu et jongler, et j'avais un petit budget pour engager d'autres gens pour le faire. Et puis, j'ai pas trouvé d'autres jongleurs et d'autres cracheurs de feu, j'ai trouvé des musiciens, et puis on s'est retrouvé à chanter, à faire de la musique, et je me suis rendu compte que je savais chanter à ce moment-là, alors que jusque-là, tout le monde me disait, non, tu peux pas chanter, tu chantes faux, et ben là, c'est les autres, en fait, les autres musiciens qui étaient autour, qui étaient vraiment des musiciens professionnels de haute qualité, qui m'ont tiré la voix, en fait, et du coup, je me suis mis à chanter.
Alors, pourquoi le choix aussi des chants médiévaux ?
Ben, ça reste dans le contexte de cette fascination du passé, parce que j'aime la quinte, cet accord, l'accord de la musique médiévale, l'accord qui est omniprésent dans tous les chants grégoriens et dans toutes ces choses-là. Moi, c'est une vibration qui me réjouit le cœur, alors voilà.
Alors justement, on va se quitter en vous demandant de chanter une chanson.
Je vais chanter une chanson qui est dédiée à la Vierge Marie, qui, même si je suis catholique d'éducation, je suis pas forcément très pratiquant et très croyant dans l'Église catholique, mais j'aime beaucoup Marie parce que c'est une personnification de la terre et des cultes anciens. On a beaucoup de vierges qui sont dédiées à des rivières, à des montagnes, à des lacs. Et le refrain, c'est une chanson en latin. Le refrain dit qu'il faut chanter tous ensemble le nom de Marie et raconte la naissance de Jésus, en fait. Cunctissimus concurrentes, Ave Maria, cunctissimus concurrentes, Ave Maria. Virgo sola existente, ena fuit angelus, Gabriel est appellatus atque missus celitus, clara facie eque dixit, Ave Maria, e cunctissimus concurrentes, Ave Maria. Clara facie quae dixit audite carissimi, clara facie quae dixit audite carissimi, en concipies Maria, Ave Maria, e cunctissimus concurrentes, Ave Maria. En concipies Maria, audite carissimi. En concipies Maria, audite carissimi. Pariesque filium, Ave Maria, e pariesque filium, Ave Maria, cunctissimus concurrentes, Ave Maria. Pariesque filium, audite carissimi. Pariesque filium, audite carissimi. Vocabis eum Iesum, Ave Maria. E vocabis eum Iesum, Ave Maria. Cunctissimus concurrentes, Ave Maria. Amen.
Fui a ponte beber agua debaixo dunha enramada, só pra ver o meu amor que a sede non era nada. Ai ele 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 ele, ai ele 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 ele, ai ele 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 ele, ai ele 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 ele. Ya ruhi hin alena wujud bil ma wadda alena. خلصنا وصلنا وبغرامك ابتلينا في بالي يا روحي يا غالي كيف انساك هاي labios el desdén, tus labios me dicen vete, tus ojos. galiquer.